Tout d'abord, merci à toi, Philippe Walter, de m'avoir permis de faire cette communication aujourd'hui dans ce colloque très interdisciplinaire et évidemment, du coup, très intéressant avec un nombre de points qui, je suppose, seront réabordés à la table ronde, extrêmement intéressant. Et lors de cette communication, je vais essayer de vous montrer comment, alors plutôt qu'une historiographie de la recherche, comme ça a été fait par d'autres orateurs, j'ai choisi de vous montrer à travers un certain nombre d'études de cas, une recherche en action autour de la compréhension de ce qu'on peut appeler les systèmes techniques, donc qui consistent à comprendre l'ensemble des techniques de fabrication, mais surtout comment elles sont imbriquées les unes dans les autres et comment elles dépendent de leur environnement au sens très large, je reviendrai là-dessus. Alors je vais m'intéresser bien sûr à un sujet que je maîtrise un peu plus, qui est le cas des objets ferreux, qui va servir à illustrer le propos, mais de manière peut-être un peu plus générale. Alors avant de commencer concrètement, je voulais également préciser que ce travail qui fait l'objet d'un certain nombre d'études cumulées depuis maintenant plus d'une dizaine d'années, est éminemment interdisciplinaire. J'ai vraiment tenu à lister une partie des gens, parce que dans ces cas-là, on en oublie toujours, et souvent les plus évidents, qui ont participé à ce travail, et ceux qui reconnaissent ces noms verront qu'il y a à la fois des archéologues, des historiens économiques, des techniques, des physico-chimistes, et effectivement ce qu'on appelle des archéomètres, qui sont un peu entre tout ça, communauté dont je fais partie. Alors saisir la complexité et l'évolution de ces systèmes techniques qui permettent de produire les objets, les matériaux, les outils, je voulais d'abord préciser que je vais essayer de vous montrer que cela ne peut être fait du fait de la complexité des différentes imbrications, et ça a été évoqué par notamment Stéphane Verger ce matin précédemment, avant la pause, nécessite une approche globale qui doit prendre en compte un grand nombre d'aspects. Alors on peut avoir une clé d'entrée, c'en est une parmi d'autres, puisqu'on parle de chimie et de matière. On peut considérer effectivement les produits au sens très large, outils, armes, etc., mais également les matières premières qui ont servi à obtenir le matériau, en l'occurrence ici le métal, destiné à leur fabrication. Et entre ces deux pôles, ces deux extrémités, eh bien, on a un certain nombre de produits intermédiaires qui sont issus en fait de différents gestes techniques liés à des transformations de la matière. Ça peut être la production primaire, ça peut être des transformations un peu plus élaborées, et dans le cas des métaux, n'oublions pas le recyclage, qui est un point très important. Alors tout ça ne flotte pas dans le cosmos d'Aristote, mais bien au sein de groupes humains qui voyagent, qui importent des gestes techniques, qui s'échangent des savoir-faire, qui discutent ces savoir-faire et s'intègrent évidemment dans des contextes plus larges. Évidemment l'environnement, je n'ai pas noté ici, mais également des contextes économiques, politiques et techniques au sens très large. Et c'est bien l'ensemble des interactions de ces paramètres qui vont former ce système technique et qui forment le palimpseste que j'évoquais dans le titre et qu'il va falloir essayer de comprendre. Et mon but est de vous montrer ici comment, à travers l'analyse de la matière, on peut apporter une petite brique à cette approche interdisciplinaire. Alors bien entendu, tout ça peut se décliner à différentes échelles, de l'objet à l'espace transrégional, et évolue de manière diachronique, donc autant d'entrées et autant d'éclairages différents qui peuvent se poser à nos questionnements, d'où évidemment l'importance de la question archéologique initiale et de la question historique initiale. Alors si on revient à notre matériau, enfin mon matériau de prédilection, le fer et ses alliages, notamment les aciers, eh bien, je vais essayer de vous expliquer rapidement, à travers des transparents suivants, comment l'analyse chimique peut nous importer de l'information. Vous avez ici, ce qu'il faut savoir, c'est que le fer n'existe pas ou est extrêmement rare à l'état natif, à la surface du globe, mais qu'il existe sous forme d'oxyde, de carbonate, de sulfure, formant ce qu'on appelle le minerai, avec la gangue du minerai, qui contient également des composés non ferrifères. Et que c'est par une opération chimique de réduction que l'on va séparer le fer des autres éléments pour obtenir le métal à l'aide d'un agent réducteur qui est le monoxyde de carbone qui provient de la combustion du charbon de bois. Et vous avez ici un exemple de petit fourneau mérovingien restitué par les équipes de Paul Benoît après, sur des données de fouilles. Et pour vous illustrer qu'un point très important, c'est qu'à l'origine de l'apparition de la sidérurgie, l'opération de réduction se passe en dessous de la température de fusion du métal. Alors ça, c'est très important parce que ça va avoir des conséquences que nous allons pouvoir exploiter dans la suite. Alors un certain nombre de composés du minerai qui ne contiennent pas du fer fondent et sont évacués en bas du fourneau, constituant ce qu'on appelle la scorie. Au passage, par rapport au jeu de questions de ce matin, opération parfaitement décrite par Aristote dans ses Météorologiques, je pense qu'il a vu les opérations qui coulent en bas du fourneau et que l'on va retrouver sur les sites archéologiques. Ça, il faut le retenir. Alors, ce qui sort du fourneau et qui intéresse le forgeron, c'est une masse informe composée à la fois de métal, bien entendu, puisque c'est le but de l'opération, mais également d'un certain nombre d'impuretés. Alors, quand on prend un microscope optique ici, et qu'on sectionne une de ces loupes, on en trouve parfois des exemplaires archéologiques sur les sites, il est possible de voir du fer métallique, ici en blanc sur la photographie, mais également ces zones noires, sombres, non agglomérées, que vous voyez, et qui contiennent des fragments de cette scorie, donc de composés non réduits du minerai, piégés à l'intérieur du matériau. Alors le forgeron va poursuivre le martelage, la transformation de sa masse de métal, pour obtenir un produit semi-fini et un objet. Et au cours de ce martelage, les particules de fer vont s'agglomérer, vous le voyez ici, toujours les zones claires, mais elles vont piéger un certain nombre de ces particules de scorie, que l'on nomme également inclusion, et qui constituent véritablement des capsules d'information, dont informations qu'on va pouvoir exploiter, et vous l'avez compris, qui contiennent des informations sur le minerai initial, mais également sur les conditions thermodynamiques, la température, la pression à l'intérieur de ces fourneaux. Alors, à la suite de différentes opérations, on peut obtenir un objet, comme cette épée ici, restituée lors d'une expérimentation. Et ce qui est important de noter également, c'est que lors de ces opérations de forge, le forgeron va utiliser un certain nombre d'ajouts pour éviter la réoxydation du métal. Ajouts qui vont pénétrer pour partie à l'intérieur du matériau et vont former une autre famille d'impuretés, une autre famille d'inclusions, portant leur lot d'informations, bien évidemment, mais également qu'il va être nécessaire de distinguer des premières inclusions issues du minerai initial. D'où, là encore, la référence au palimpseste. Alors, pour ce faire, on dispose aujourd'hui, effectivement, d'un certain nombre de méthodes de chimie à l'échelle microscopique qui sont extrêmement performantes, qui permettent de doser ces éléments dit à l'état de trace, donc à présent à l'état de partie par million, dans de très petits volumes, puisque vous voyez, alors là j'ai photographié une grosse inclusion, au microscope optique toujours, qui fait 0,1 mm en gros, mais vous voyez tout ce petit semis de points noirs sont autant d'impuretés qui sont piégées au sein du métal et qu'il est nécessaire d'analyser à cette échelle, parce qu'on a une empreinte, une espèce d'empreinte digitale à la fois du minerai et des gestes techniques, et c'est ce que je vais illustrer dans la suite de mon propos. Alors, d'abord, avant de vous montrer quelques exemples, quelques mots sur les stratégies, les démarches chimiques et analytiques, on dispose effectivement aujourd'hui, je l'ai dit, de moyens de plus en plus performants, notamment basés sur l'usage du rayonnement synchrotron, microfluorescence sous rayonnement synchrotron pour le problème qui nous concerne, ou des spectrométries de masse qui sont employées ici, vous en avez eu quelques exemples avant la pause, mais qui sont employées également ici. Mais je voudrais simplement passer un message qu'avec cette complexité croissante de la mesure, il est nécessaire d'avoir des savoir-faire en chimie analytique, et Philippe Walter en est un des éminents représentants. Mais méfions-nous finalement de la magie de ces chiffres qui ont l'air extrêmement exacts, mais qui sont en fait que des tirages autour d'une gaussienne représentée par une moyenne et un écartique, et que ces questions de précision de mesure, de limite de détection, sont d'autant plus cruciales que l'on va chercher des petits volumes et des petites quantités de matière. Il faut donc les prendre en compte avant, évidemment, de se lancer dans des interprétations historiques qui pourraient être fausses. Et je vous ai parlé d'échelle microscopique, où nous avons également un questionnement autour de l'effet d'échelle de ces nouvelles techniques, puisqu'on va maintenant du macroscopique. Il y a quelques dizaines d'années, un peu plus, 50 ans, on avait des techniques qui permettaient d'atteindre le centimètre. J'exagère un peu, on descendait en dessous du millimètre. Mais maintenant, on est largement au micromètre, voire en dessous. Et quelle est la signification de l'analyse sur un centimètre carré d'un objet comparé à l'analyse, si on regarde à l'intérieur de la structure du matériau, je vous représenterai cette structure plus tard, de différents points microscopiques, quelle est la représentativité de ces points, que signifie-t-il à l'échelle de l'objet ou à l'échelle de grandes interprétations sur des circulations d'objets. C'est l'ensemble de ces questionnements que je vais essayer de balayer, je te promets rapidement, Philippe, en commençant par le fait que, dans notre cas, dans le cas des objets ferreux, il est nécessaire d'analyser, maintenant les nouvelles techniques le permettent, des centaines voire le millier d'inclusions par objet, ce qui permet d'aborder un traitement statistique. Et l'ensemble de ces points représentés sur cette figure ici, sur une analyse en composantes principales, mais peu importe, représente chacun une inclusion. À chaque point est une inclusion analysée, et on voit que par traitement statistique adapté, dont je ne rentrerai pas dans les détails, vous pouvez le trouver dans la littérature, eh bien il est possible, comme je vous le disais, de distinguer les inclusions issues du minerai, ici en rouge, d'autres familles d'inclusions, de compositions spécifiques qui sont liées au traitement de forge et aux ajouts. Alors pourquoi est-ce que ça c'est intéressant? Je vais l'illustrer sur les analyses d'une épée mérovingienne que nous avons réalisées en collaboration avec Aurélie von Bibelstein, une épée qui provient d'Allemagne du Sud. Alors, ce n'est pas l'épée qui a été analysée, je vous expliquerai pourquoi, mais simplement retenez que ces épées mérovingiennes se caractérisent par le fait que ce sont des véritables chefs-d'œuvre de la forge et de la sidérurgie, puisqu'elles sont constituées en décoration au moins d'une alternance et d'une structure de barres de fer, de lamelles de fer, pardon, et de lamelles d'acier qui forment des motifs assez originaux et caractéristiques de cette époque. Alors, sur certains fragments d'épée, il est possible d'obtenir une coupe transversale, et je vais vous montrer que je représente ici le résultat de l'analyse de ces impuretés, des inclusions. Alors j'ai pris deux couples de rapports, j'aurais pu en prendre d'autres, c'est simplement à titre illustratif, dans les parties acérées du motif damassé en noir sur la photo. Quand on s'intéresse aux parties en fer, on voit que cette composition est différente, et que différentes parties en fer présentent des compositions également distinctes entre elles. Ceci veut dire que les trois types de matériaux qui ont servi à réaliser cette épée ont des origines différentes, et vous voyez qu'on commence déjà à éclairer ce qu'on appelle la chaîne opératoire et l'étalement géographique de cette chaîne opératoire, je reviendrai là-dessus. Alors on peut aller un peu plus loin et s'intéresser aux impuretés qui sont dans les soudures entre la partie damassée et le corps de l'épée. Et ça, ce sont les ajouts qu'a fait le forgeron. On voit que d'un côté et de l'autre, on a différents types d'ajouts, et fait fort intéressant, c'est que les tranchants, qui ont été soudés également à ce corps d'épée, eh bien, présentent également des inclusions d'origine différente. Tout ça pour vous faire percevoir qu'au travers de l'analyse de ces inclusions, il est possible de saisir la complexité de cette chaîne opératoire à l'époque mérovingienne, puisqu'on a déjà différents matériaux de départ, fer et acier issus probablement d'ensembles de productions différents, que on va assembler à un endroit qui peut être différent. Ces matériaux peuvent circuler et sous la forme de demi-produits, et ces demi-produits pourront être assemblés in fine pour former une épée, mais un artisan pourra acheter du fer, de l'acier ou un corps des tranchants en acier déjà réalisé. Donc vous saisissez un peu ici la grille de lecture que nous offre cette analyse chimique du matériau. Alors cette approche, je vous ai montré une approche pour la période mérovingienne, elle a également été réalisée pour la période antique par Gaspard Pagès, qui a montré qui a analysé les barres provenant des épaves des Saintes-Maries de la Mer qui se situent sur un ancien bras du Rhône. Il y a environ quelques dizaines d'épaves échouées et un millier de barres de fer, pas que des barres de fer, il y a également du plomb, d'autres matériaux forment la cargaison. Et nous avons pu montrer, Gaspard Pagès, qu'au sein de ces barres, on avait des métaux de nature différente. Ça, c'est intéressant pour des différentes notions de qualité de métal qui sont échangées, commercialisées, mais qu'également ces barres étaient constituées de modules élémentaires elles-mêmes d'origine différente. Et là, on saisit tout à fait le découpage spatial de la chaîne opératoire impliquant des centres de transformation intermédiaires qui vont acheter des demi-produits, les mettre en forme et commercialiser des barres avec des formes spécifiques correspondant à des qualités de matériaux. Alors ça, c'est intéressant. Alors Marie-Pierre Cousture a montré qu'une partie de ces modules provenait de la Montagne Noire, gros centre de production fort connu pour l'époque et fouillé par Claude Domergue, mais ce n'est pas la seule origine de ces barres, et c'est extrêmement intéressant. Alors voilà, j'en ai fini avec l'illustration de ce que pouvait apporter l'analyse chimique pour la compréhension à la fois des gestes techniques, mais également du découpage de ces chaînes opératoires. Je voudrais maintenant vous montrer un exemple d'étude qui va nous permettre de cerner le procédé en lui-même de fabrication, le procédé de transformation de minerais en métal. Alors on reprend notre bas fourneau, et ce qui est intéressant de considérer, c'est que certains éléments initialement présents dans le minerai, j'en ai listé quelques-uns ici, vont avoir des comportements extrêmement tributaires de ce que l'on appelle de manière un peu barbare, la thermodynamique, c'est-à-dire la température, toujours c'est les mêmes choses, et puis la pression partielle des gaz, ici le monoxyde de carbone. Et c'est le cas notamment de l'oxyde de phosphore, qui dans le cas du procédé, des procédés à relativement basse température, alors tout est relatif, basse température, on est à 1300 degrés ici, eh bien, ne va pas dans ces conditions être séparé du métal et va se retrouver dans la scorie, scorie que l'on retrouve sur les sites archéologiques, mais également piégé, je vous l'ai dit, dans les inclusions du matériau. Alors ce qui se passe en Europe occidentale, à la fin du Moyen-Âge, on a une mutation technique extrêmement importante de cette chaîne opératoire liée à l'usage, la généralisation de l'usage de la force hydraulique. Ça, c'est vraiment quelque chose qui va faire modifier considérablement le paysage technique de cette Europe occidentale. Alors, pour les moulins, vous l'aurez tous compris, mais également, par exemple, ici, pour la ventilation des fourneaux. Alors, cette ventilation des fourneaux par la force hydraulique va amener une augmentation en température dans les fourneaux, une augmentation de la taille de ces fourneaux, qu'on va maintenant appeler hauts fourneaux. Vous en avez une représentation ici sur une toile du XVIe, et production d'un nouveau matériau qu'on appelle la fonte, qui sort à l'état liquide cette fois-ci du fourneau. Alors la fonte permet de faire des boulets de fonte, première mention 1414 à Namur, va complètement révolutionner l'artillerie qui va changer de forme, mais c'est une autre histoire, je n'ai pas le temps d'en parler. Pour obtenir du fer ou de l'acier à partir de la fonte, il est nécessaire de l'affiner dans un second foyer que vous voyez représenté ici, d'où procédé indirect ou filière fonte. Et ce procédé indirect permet de produire de plus grandes quantités de métal. Et il apparaît vraisemblablement dans le nord de l'Europe au XIIIe siècle et, vous voyez, se propage jusque à la fin du XVe siècle à travers la Wallonie, où il prendra le nom de procédé wallon d'ailleurs, et jusque dans le centre de la France. Alors si on reprend notre phosphore initialement présent dans le minerai, mais il s'avère que, comme d'autres éléments, ce phosphore va avoir un comportement extrêmement différent. Vous voyez ici qu'on a affaire à un haut fourneau, vous noterez la différence de taille, le fer qui coule à l'état, la fonte qui coule pardon, à l'état liquide en bas du fourneau. Et ici, dans ces conditions-là, haute température notamment, le phosphore est séparé de son oxygène et va aller directement dans le métal. Et ceci va induire une différence caractéristique de composition sur les métaux issus du procédé indirect de la filière fonte. Alors nous avons pu le montrer à l'aide d'une approche statistique sur un corpus d'apprentissage de 200 objets issus de contextes technologiques sûrs. Nous avions un certain nombre d'objets ici en rouge issus du procédé direct, un certain nombre d'objets issus du procédé indirect, et par l'analyse de leur composition et une approche statistique que je ne détaillerai pas en régression logistique, il est possible de distinguer les deux ensembles d'objets et également, pour un échantillon inconnu, d'émettre une probabilité de réalisation par l'un ou l'autre des procédés. Et cette notion de probabilité, je pense qu'elle est extrêmement importante et qu'il va nous falloir la développer dans le futur pour ce qui est des études autour notamment des circulations, de la provenance et des techniques. Alors je vais illustrer l'emploi de cette méthode statistique à travers un cas qui m'est cher et lié à l'usage du métal dans les grands bâtiments gothiques, à savoir les cathédrales. On a pu montrer que des tonnes de métal faisaient partie initialement du processus de construction, 40 tonnes par exemple dans la cathédrale de Ratisbonne, une fois la tour Eiffel dans le palais des papes d'Avignon, qui n'est pas une cathédrale mais un monument gothique du XIIIe siècle. Et ici, je vais vous montrer l'exemple d'une étude globale autour du beffroi de la cathédrale de Metz, appelée Tour de la Mutte. Alors ça fait partie de la thèse d'Alexandre Disser qui va soutenir à l'automne, mais qui est également issue d'une étude interdisciplinaire, notamment avec la collaboration de Marc Leroy, archéologue de la région Lorraine et spécialiste de ces questions de production du fer. Alors le beffroi de la ville de Metz a été fait en deux temps, le premier temps au XIIIe siècle, vous voyez, représenté en bleu ici, la base, et puis une seconde partie de la tour a été construite à la fin du XVe siècle, entre 1478 et 1483. Et quand on regarde les techniques de construction qui ont été utilisées, les études archéologiques du bâti ont permis de montrer qu'un grand nombre et un ensemble complexe d'agrafes de renfort, scellés au plomb, le plomb a également été analysé, mais là encore je n'ai pas le temps de développer, ont été utilisés pour renforcer la structure de cette cathédrale. Alors, nous avons pu, grâce à une méthode récemment mise au point notamment par les travaux de Stéphanie Leroy au sein de notre équipe et Emmanuel Delcecolic en collaboration avec la plateforme Artemis du CEA Saclay, mettre au point une méthode de datation radiocarbone de ces éléments ferreux, tout simplement en dosant le carbone du charbon de bois, en datant, pardon, le carbone du charbon de bois provenant de la fabrication du fer. Et on voit que les résultats sont extrêmement cohérents avec ce que suggère l'archéologie, que ces agrafes ont été mises en place. Ici, vous avez une agrafe du XIIIe qui est localisée en bas de la tour, et vous avez une datation compatible avec le XVe siècle pour les agrafes de la partie haute de la tour. Alors, ce n'est pas l'ensemble de ces agrafes, mais nous avons pu distinguer les agrafes mises en place à l'époque et qui étaient l'extrême majorité. Alors qu'en est-il, rappelez-vous, je parlais de diffusion des procédés, qu'en est-il de l'apparition du nouveau procédé, du procédé indirect en Lorraine ? Eh bien, les études historiques et également les fouilles archéologiques montrent que cette vague de diffusion, elle atteint la vallée de la Meuse et la Lorraine aux alentours du XIVe siècle. Vous avez ici le résultat d'un certain nombre de fouilles archéologiques qui montrent la répartition de certains sites producteurs de fer avec le procédé direct et le procédé indirect, notamment fouillé par Marc Leroy. Il était donc tout à fait pertinent d'essayer d'aller voir sur la tour de Mut si on retrouvait les différents procédés de fabrication. Alors voici le résultat des analyses de probabilité sur la détermination des procédés. Nous avons pu montrer que si une majorité des agrafes était réalisée avec le procédé indirect, donc le nouveau procédé, eh bien, il perdurait une certaine part, assez relativement importante, d'agrafes réalisées avec le procédé direct. Vous les avez ici représentées et localisées sur la tour, donc en rouge le direct, en bleu l'indirect. Alors c'est extrêmement intéressant puisque les agrafes du procédé du XIIIe siècle sont compatibles avec le procédé direct, on a une bonne cohérence avec l'archéologie, et on retrouve une concomitance des deux procédés au XVe siècle. Le procédé direct, le procédé ancien ne s'est pas fait balayer hein, par l'arrivée du nouveau procédé, et cette tendance, puisqu'à l'heure actuelle nous sommes à environ une quarantaine de monuments médiévaux analysés, se retrouve dans d'autres régions, du territoire français, notamment par les, nous avons pu voir ça par les travaux de Maxime L'Héritier, puisqu'autour des cathédrales d'Auxerre et Troyes, alors nous avons pu localiser du fer indirect à une date bien antérieure à la première source historique de l'arrivée de ce procédé en Bourgogne, mais on voit qu'il faut environ 300 ans au procédé direct pour disparaître. Il faut 300 ans pour que le nouveau procédé remplace totalement l'ancien dans les fournitures de fer des cathédrales d'Auxerre et de Troyes. Cette tendance est également observée à la cathédrale d'Amiens. Cette cathédrale ne date pas du XIIIe siècle. En revanche, au XVe siècle, et c'est parfaitement documenté par les sources historiques, on place un chaînage dans le triforium de la cathédrale pour éviter que les piliers de la croisée ne flambent et que cette cathédrale s'écroule. Il y a quand même eu Beauvais quelques temps avant. Et on a pu montrer que les éléments standardisés de ce chaînage avaient été réalisés avec le procédé indirect, le nouveau procédé, mais que le liaisonnement de ces éléments standardisés aux extrémités du chaînage avait été réalisé par d'autres artisans et avec le procédé ancien. On voit donc là qu'il faut réviser ces visions un peu simplistes hein, de diffusion très lente mais régulière de nouveaux procédés. Ces diffusions sont tributaires de nombreux facteurs techniques, il y a peut-être un minerai plus adapté que d'autres à un certain procédé, sociaux et également politiques. Si on possède un type de forge, il ne faut pas les mêmes moyens pour installer une forge indirecte qu'une forge directe. Et c'est bien cet ensemble d'interpénétration de paramètres qu'il est extrêmement intéressant d'étudier. Alors, je vous ai donc parlé de gestes techniques, je vous ai parlé d'évolution de procédés. J'aimerais même maintenant dire quelques mots, dans les 10 minutes qu'il me reste, des lieux de production du métal, puisqu'on a... vous l'avez compris, des petites inclusions qui ont la signature chimique du minerai initial, ça pourrait être intéressant d'essayer de comparer avec les scories que l'on trouve sur les sites archéologiques pour voir si on a la même composition. Alors on retourne à notre tour de Mut à Metz et on s'est posé la question de savoir si on avait effectivement une source locale de minerai qui est suggérée par les sources historiques puisqu'on a un contrôle des forges du comté de Bar, notamment par les bourgeois messins, et que ces mêmes bourgeois sont créanciers impliqués dans la construction du beffroi. En revanche, on n'a aucune mention sur l'origine du fer de la cathédrale dans les sources écrites qui nous sont parvenues. Ce qu'on possède, ce sont des sites de production avec un certain nombre de scories que nous avons pu analyser. Alors, à ce stade, je vais faire une remarque qui me semble extrêmement importante, c'est celle des référentiels chimiques qui vont signer un ensemble de production. Voici en gros un résumé des grands ensembles de production que nos équipes et quelques autres ont analysés à ce jour, et analysés à travers donc, d'une part des prospections qui ont permis de retrouver les sites de production et les scories, de fouiller certains sites, vous avez la fouille de Florian Térégeol en Ariège ici, et d'analyser à la fois donc, les déchets de la réduction qui contiennent la signature du minerai, les minerais quand on les retrouve, et des fragments de fer trouvés sur les sites de production. Alors bien évidemment, cette base de données, vous avez un zoom ici sur d'autres régions, nous appelons de tous nos voeux qu'elle se développe au niveau international, et je crois que ça va être un des grands défis de la recherche dans les prochaines années, c'est de réussir à travers le développement de bases de données adaptées, hein, avec réflexion sur les thésaurus, de mettre à la disposition de la recherche, notamment en sciences humaines et archéologiques, ces bases de données, parce que les enjeux dépassent largement le cadre de nos laboratoires et ceux de nos frontières, je pense également. Alors, si on revient plus modestement à nos agrafes de la Mutte et qu'on les compare à la composition des différentes zones de production lorraine, vous voyez ici que les carrés représentent les agrafes et qu'on a une parfaite compatibilité avec la composition de la minette de Lorraine, qui est le minerai localement connu et exploité dès les périodes hautes dans cette région. Alors c'est intéressant également de préciser que il n'y a pas une seule analyse statistique hein, qui permet de vérifier cette hypothèse-là, qu'il s'agit bien de réaliser toute une méthodologie, une inférence, comme on dit, statistique, qui permet ici, comme avec ces classifications hiérarchiques, de montrer qu'il est impossible de séparer les agrafes de la tour de Mutte en orange foncé de l'ensemble chimique constitué par la minette de Lorraine, les scories et les minerais lorrains en eux-mêmes. On voit donc ici qu'on confirme cette source locale, annoncée par les sources, on a donc une extrêmement bonne cohérence, mais ce paysage local, ici, peut avoir ce scénario, pardon, là, n'est pas obligatoirement respecté, et par exemple, sur la cathédrale de Bourges, nous avons pu analyser le chaînage en fer qui ceinture l'ensemble du triforium et qui a été placé lors de la construction, les datations radiocarbone le montrent. Nous avons pu montrer que si la moitié des échantillons provenaient de sources locales, forêt d'Alonie, zone de production bien connue, abbaye de Noirlac, eh bien nous avons l'autre moitié qui provenait d'une origine extra-régionale que nous n'avons pas déterminée à l'heure actuelle et qui n'est pas mentionnée dans les sources comptables de la fabrique. Alors vous voyez, on entrevoit là encore cette complexité d'approvisionnement de ces chantiers médiévaux, là encore lié à un certain nombre de facteurs hein, qu'on ne maîtrise pas tous. À Avignon, c'est le maître des ferrures qui achète les fers, mais après on perd l'origine du matériau. Alors un autre exemple d'étude toujours médiévale, fin du Moyen-Âge, cette fois-ci en Ariège, où dans la région du comté de Foix, eh bien, on produit un fer de grande renommée, un acier même à cette époque, et les travaux de Catherine Vernat, historienne économique et des techniques, ont montré qu'on a un marché local extrêmement complexe hein, de distribution du métal, et qu'on a également des accords, notamment le comte de Foix a imposé au couserans voisin qui a beaucoup plus de forêts et du charbon de bois, un échange charbon minerai, puisque le minerai se situe aux alentours de Vic-de-Sauce, dans la mine de Vic-de-Sauce, et on retrouve dans la composition chimique des inclusions la trace de ces échanges charbon-minerai, alors que l'on croyait concerner tout le Couserans, mais qui en fait est extrêmement limité à la frontière Couserans-Comté de Foix. Dès qu'on s'éloigne, les sources redeviennent multiples et on perd cette influence politique lors d'un traité qui a duré quelques centaines d'années quand même, et dont on a le texte hein, aux archives. Alors nous avons pu également suivre, alors au-delà de l'analyse complexe du marché, les routes commerciales, montrer qu'à l'abbatiale de Capestan, donc à une moyenne distance, nous avons utilisation de ce fer de foie, et plus intéressant, utilisation du fer à provenance d'Ariège pour la construction du Palais des Papes, qui, je vous le rappelle, a été conçu et est construit avec des tonnes de métal. Nous avons également pu identifier une source provenant du Dauphiné, mais point remarquable, c'est que le fer lombard, nous n'avons pas trouvé d'occurrence de fer lombard pour les fournitures de la construction du Palais des Papes. Alors pourquoi le fer lombard ? Pourquoi nous sommes posés la question historique du fer lombard ? C'est parce que les marchands lombards ont un certain nombre de comptoirs au XIVe siècle en Avignon, et notamment Philippe Bronstein de l'EHESS a étudié les textes de la correspondance du très connu marchand d'Attigny qui importe du fer en Avignon, mais ce fer et cet acier n'a pas servi à construire vraisemblablement pas, il faut toujours multiplier les analyses et reposer les questions, mais au vu de ce que nous avons analysé, il n'a pas servi à construire le palais des papes. Alors on va complètement changer de période pour terminer sur cet exemple qui va résonner complètement avec la communication de Stéphane Verger, puisqu'il s'agit du Hallstatt aux âges du fer, donc. Et ce sont des résultats d'une étude en cours qui concerne le projet Enercipia, qui est franco-allemand, co-dirigé par Sylvain Beauvais, Roland Schwab du Kurt-Engelhardt Zentrum, dirigé par Ernst Pernitschka à Mannheim, et moi-même, et où nous nous sommes intéressés, pour toutes les raisons évoquées précédemment, à l'origine de la fabrication de ces lingots bipyramidés, hein, qui sont des demi-produits qui circulent à ces époques, notamment aux alentours de, dans cet espace là défini aux alentours de la frontière franco-allemande, et puis un certain nombre de bandages de chars que l'on a retrouvés dans différentes sépultures et dont vous voyez la répartition représentée ici sur ces cartes. Alors bien entendu, nous avons, en collaboration avec nos collègues allemands, analysé un certain nombre d'ensembles de production. Les analyses sont encore en cours. Alors, à des endroits où archéologiquement des traces de production de métal avaient été trop mises au jour, mais également à des endroits où des minerais étaient disponibles, et nous avons réalisé un certain nombre d'intercomparaisons avec différentes pièces. Alors, j'ai absolument pas le temps de rentrer dans les détails, mais simplement trois résultats marquants. Vous avez ici un ensemble assez important de bipyramidés, les triangles, de bandages de chars, les ronds et d'autres types d'objets, qui forment un groupe homogène et que nous n'avons réussi à associer à aucun des espaces analysés. Alors ça, c'est intéressant parce que l'absence d'information est également une information. Nous avons identifié un centre majeur de production avec des lingots et des bandages de chars qui proviennent qui ont été trouvés à différents endroits dans l'espace étudié, qui proviennent de ce centre, mais nous ne l'avons pas encore identifié. En revanche, si on s'intéresse aux bandages de chars de la tombe de Winterlingen, eh bien, tant les approches allemandes qui sont plus basées sur l'analyse isotopique, que je n'ai pas détaillée, mais c'est le même principe, on compare la signature isotopique des scories avec celle du métal, et vous avez à droite nos analyses sur les éléments traces, on a une excellente compatibilité avec une source relativement locale, le Bayerische Schwaben, où ont été également identifiés des centres de production du métal, et également pour la loupe de fer, il ne s'agit pas de la banquette de Hohrdorf, ce n'est pas un scoop que je gardais secret par rapport aux travaux de l'équipe de Stéphane Verger, mais il s'agit bien de ce qui sort d'un bas-fourneau trouvé dans la zone artisanale, et là on a pu valider à la fois par les deux méthodes une origine compatible locale avec le Schwarzwald. Donc ça c'est intéressant parce qu'en état de la recherche, ça nous montre quand une provenance est identifiée, elle est compatible avec les ensembles de production majeurs de la période, et que les petits ensembles de production comme la Lorraine à cette époque, ou une seule occurrence hein, de four de production a été détectée, a été mise au jour. Ces petits ensembles n'ont pas été détectés dans les lots analysés. Et enfin, nous avons pointé l'existence d'un important ensemble de production non identifié à ce jour. Alors, est-ce la Bourgogne, la Franche-Comté, pourquoi pas plus loin ? Nous espérons que le prochain programme pour lequel nous avons postulé nous permettra de répondre à ces questions, ce qui me permettra de revenir en parler. Voilà, j'en arrive maintenant aux conclusions, où j'espère vous avoir montré que l'ensemble de ces approches, si dans lesquelles la chimie, l'analyse chimique a une part extrêmement importante, ne peuvent être cloisonnées et doivent être évidemment menées de manière intégrée, inter- et pluridisciplinaire. Alors c'est vrai pour les systèmes techniques, mais c'est vrai je pense pour l'ensemble des autres questions qui ont été évoquées précédemment. Elle présente encore un certain nombre de défis, hein, des défis analytiques. Là j'ai présenté des paysages très roses, mais on a réduire les volumes analysés, procéder à des changements d'aisselle, tout ça passera par analyser un très très grand nombre d'objets. Alors ça, ce sont des défis analytiques pour le patrimoine, mais également dans d'autres domaines, hein, de sciences des matériaux, de sciences des sols, où on a des systèmes hétérogènes à différentes échelles qu'il faut analyser. Des défis statistiques, parce que je pense que tant pour le traitement des données, des résultats, que pour l'interprétation de ces résultats d'un point de vue archéologique, nous devons nous tourner vers des inférences probabilistes, peut-être avec des hypothèses a priori, comme le permettent les statistiques bayésiennes utilisées en chronologie. À mon sens, ce sont des développements à tenter pour le futur. Et enfin, des défis aux sciences humaines qui ont déjà été présentés précédemment. Alors, au travers des bases de données, des référentiels, mais également des croisements des approches et, je dirais, du positionnement, du questionnement historique et archéologique. Voilà, je vous remercie.